Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Et nous vous proposons de réécouter aujourd'hui une conversation avec la chanteuse Shaïm. C'était le 4 novembre 2017 sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de son album Héros, sorti un mois plus tôt.
Bonjour. La France est peut-être un terrain de jeu un peu réduit pour Shaïm, dont le talent protéiforme n'a rien à envier à celui d'une Katy Perry ou d'une Rihanna. La demoiselle a raison de voir grand et loin, car elle excelle en tout. Le nouvel album de Shaïm, baptisé Héros, vient de sortir. Tout ça mérite bien qu'on parte en balade ensemble cet après-midi. Bonjour Shaïm.
Bonjour.
Europe 1.
Shaïm, vous êtes l'artiste française qui a généré 1,5 milliard de vues sur YouTube. C'est presque irréel pour une artiste de l'Hexagone. Ça signifie qu'avec ce 0,5 milliard de clics, les gens ont cherché à voir quoi et ont vu quoi?
Je sais pas, faudra leur demander. C'est étourdissant d'entendre ces chiffres. Ça concrétise un peu les gens qui vous suivent, le pouvoir aussi des réseaux sociaux qui fait partie de ma génération. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte comme ça quand on fait les choses jour après jour, semaine après semaine. Et finalement, oui, ça commence à être pas mal. C'est juste bon, en fait, voilà, d'exister.
Alors,
encore.
Shaïm, ce record sur YouTube, eh ben, il vous place à l'égal des stars américaines de la pop et du R&B. Hein. Je disais à l'instant que la France est peut-être un terrain de jeu trop réduit pour vous. Mais dans les projets, par exemple, de votre très performant producteur Camaro, est-ce qu'il y a une place pour le fantasme américain?
Il n'existe pas encore dans ma tête, ce fantasme américain. Je crois qu'il est peut-être trop grand. En même temps, que serait un rêve s'il n'était pas assez grand? Peut-être que je me permettrais de le penser, de le rêver, de le concrétiser plus tard. Mais c'est vrai que j'avais besoin déjà, avant d'exister chez moi, de m'adresser à ma famille, à mes amis, à ma culture.
Vous êtes emparée de Bercy en virtuose de la danse et du chant. Exister chez vous, ça y est, vous avez prouvé tout ce que vous aviez à nous prouver.
Je crois que de continuer à exister, c'est une grosse preuve aussi. De sortir un album, ouais, deux albums, ouais, trois albums, c'est énorme déjà, mais on a envie de faire plus, on a envie de faire plus longtemps. C'est pas un fantasme encore aujourd'hui de traverser les frontières. J'ai surtout envie, si, enfin dans le meilleur des cas, effectivement, de toucher le maximum de gens. Donc si pour cela il faut traverser les frontières, oui, ce sera avec grand plaisir.
Alors il y a 4 ans, Shaïm, vous écriviez sur MySpace: on ne devient pas artiste parce qu'on l'a décidé. Vous voulez dire donc que on l'est à la naissance et que finalement seul le destin peut décider ou non de donner le coup de pouce pour entrer dans la lumière?
Je crois qu'on est artiste, en tout cas. Des artistes, j'en croise plein dans la rue, sans les connaître, sans leur parler, je le vois. C'est pas le métier qui fait qu'on atteint ce statut, entre guillemets. C'est une philosophie de vie, c'est une façon de penser, une façon de voir les choses, de voir les gens, une façon de regarder le monde. Et ensuite, oui, de partager son art, que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans la danse, on atteint à l'épanouissement de l'artiste, certainement. Mais ma mère est une artiste, elle en a jamais fait son métier. Ma sœur est une artiste. Il y a plein de gens qui sont artistes.
Elle
chante.
Elle est assez extravertie, n'est-ce pas?
Oui, ma mère, oui, beaucoup. Elle chante, elle danse. Ma sœur dessine. Enfin, voilà. Et je pense que l'art aussi, c'est très vaste et que lorsqu'on touche à quelque chose, les ponts se créent très, très vite, finalement. D'où mon envie, depuis ces années, à essayer de toucher un petit peu à tout pour montrer qu'effectivement, même si on nous a connus dans une certaine discipline, il n'est pas impossible qu'on puisse faire autre chose.
Ouais. Alors, vous avez grandi à Trappes, Trappes que les médias présentent souvent comme une ville de tension, et d'où sont originaires Anelka, Omar Sy, Jamel Debbouze. Il y a un biotope particulier à Trappes pour que cette ville fournisse autant de stars?
Je ne sais pas, j'ai jamais réussi à trouver cette réponse, mais en tout cas, l'envie peut-être d'avoir une meilleure vie, entre guillemets, alors il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes à Trappes. L'entraide, le social là-bas est très généreux, très chaleureux, très humain finalement, et je l'ai jamais retrouvé ailleurs d'ailleurs, mais juste avoir un confort peut-être de vie meilleur, tout simplement.
Donc vous trouvez qu'on parle mal de cette ville?
Ah oui, quand on ne la connaît pas, puis je le ressentais déjà très jeune lorsque je disais que je venais de Trappes, et puis en plus c'était une autre génération, donc c'était encore plus négatif. Mais quand je disais que je venais de Trappes, on imaginait tout de suite une caricature, un stéréotype d'une personne mal éduquée qui ne pouvait pas parler, qui voilà, je vous en passe, mais et ça a été une fierté pour moi de montrer, justement, de véhiculer une autre image.
Alors, est-ce que Tamara Marthe, qui est votre vrai nom, Shaïm, est-ce que Tamara redoutait, adolescente, d'avoir une vie anonyme, répétitive, étriquée?
Répétitive et étriquée, c'est sûr. Anonyme, non. En revanche, je me souviens à 7 ans avoir dit à ma mère Je savais pas ce que je voulais faire, hein, mais je lui ai dit, plus grande, je me vois avec deux Rottweiler et avoir un métier qui me permet tous les mois de ne pas gagner la même somme d'argent. Voilà, à 7 ans, je me rappelle lui avoir dit ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais déjà la peur du quotidien, de la lassitude, de la répétition. Et ça se confirme aujourd'hui avec la femme que je suis.
Elle est violente, l'image.
Je sais pas si elle était violente pour moi à l'époque, mais j'adorais les chiens, donc d'où les Rottweiler, certainement. J'adorais les animaux.
Enfin, ce ne sont pas les plus doux, les plus affectueux, les plus tendres.
Mais à Trappe, il y en avait beaucoup. Et puis surtout, je crois que encore une fois, ça dépend vraiment de l'éducation qu'on leur donne. Et mon oncle à l'époque avait un mâle et une femelle de Rottweiler, et ils étaient. Mais j'étais amoureuse d'eux, donc j'ai voulu peut-être répéter l'expérience plus tard. Et puis oui, j'avais déjà envie de faire quelque chose qui pouvait me permettre de pas être dans la répétition, de pas me lever à la même heure, de pas me coucher à la même heure. Voilà, on parlait beaucoup d'argent quand j'étais jeune parce qu'il fallait faire très attention, et ça s'est peut-être concrétisé comme ça quand j'en ai parlé à ma mère. Mais je lui ai dit, je ne veux pas avoir la même paye chaque mois. Voilà.
Bon, Tamara Marthe, c'est si singulier qu'on pourrait imaginer que c'est un pseudo. Vous auriez pu le garder, ce nom étonnant?
Oui, mais j'avais déjà envie à l'époque de faire la différence. C'est-à-dire quand je me suis retrouvée en studio avec des amis dans des conditions assez spartiates, parce que j'avais un espèce de micro avec un collant en fait pour recréer les conditions de studio professionnel, je ne pouvais pas me prendre au sérieux et avoir mon nom marqué sur la pochette. Donc j'ai trouvé un pseudo qui me ressemblait. Toutefois, j'étais très timide, maladive quand j'étais jeune, donc le Shy et le M, parce que je trouvais que Shy c'était joli et que ça correspondait aussi à la Martinique, mes origines, et c'est resté finalement.
Marthe aussi.
Et Marthe aussi d'ailleurs, je n'ai même pas pensé à ça, mais oui, effectivement, ça aurait pu être une des significations.
Bon, Shaim, cette peau caramel, vous la devez à un cocktail magique d'origine antillaise, indienne et normande. Alors, antillaise et normande, on sait, mais indienne?
Bah parce qu'il y a beaucoup d'Indiens aux Antilles, en Martinique, et mon grand-père était à moitié indien et martiniquais. Donc voilà, j'en ai hérité petit à petit. Bon, le pourcentage a réduit, mais voilà, j'ai des restes.
Quelle est la première personne qui vous a dit que vous étiez douée?
Waouh, incroyable. On m'a jamais posé la question. Ça doit être ma maman, certainement. Peut-être parce qu'elle avait l'habitude de vouloir me mettre en scène, entre guillemets, lorsqu'on faisait des mariages, des anniversaires. Je me souviens d'elle qui me sollicitait pour chanter ou pour danser devant les gens. Et je me souviens surtout de moi qui disais tout le temps non, parce que j'étais déjà paralysée de devoir me mettre en scène devant des gens, même si c'était que ma famille. Et puis c'est elle qui m'a inscrite dans des cours de danse, parce que j'étais tellement presque associable qu'elle me disait « mais il faut que tu trouves une activité en dehors des cours, te faire des amis, juste t'épanouir un petit peu plus ». J'étais très renfermée. Et puis voilà, j'ai commencé la danse grâce à elle, et puis ensuite c'est mon chorégraphe à l'époque qui m'a pris sous son aile.
Alors, on parle de la danse, mais en parallèle, il y avait le chant.
Oui.
Il paraît qu'à 15 ans, Shaim, comme votre père chantait du gospel, et ben vous êtes mise à chanter du gospel sous la direction du prof de chant de votre père. Vous êtes même essayée à l'art lyrique. Quelle sensation vous en gardez?
Ouh là là, ça a été très court. C'est comme ma danse classique. Ouais. J'ai commencé à prendre des cours de pas forcément de gospel, mais avec cette prof de chant de gospel. Je prends des cours avec elle. Ça s'est plutôt bien passé. J'en ai de vagues souvenirs parce que j'étais très jeune. J'ai commencé à prendre des cours de lyrique ensuite, où là je me souviens chanter en italien. C'est comme les cours de danse classique. Ça ne m'allait pas. Je m'ennuyais. C'était trop propre finalement, alors que le hip-hop, alors que lorsque je dansais, lorsque je chantais, j'avais du mal à me sentir étriquée dans des règles, dans des techniques, etc. Ce qui fait que ça n'a jamais duré très longtemps.
Je reçois cet après-midi la diva de la pop française. Seuls les superlatifs permettent de la décrire. On a mille choses à se dire. Avec Shaim, on se retrouve tout de suite.
Écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Le 4 novembre 2017, Isabelle Morizet recevait la chanteuse Shaim pour parler de son album Héros. Et cet après-midi, eh bien, on se replonge dans cette conversation jusqu'à 16h.
Shaim est la diva de la pop qu'on attendait en France. Je suis très heureuse de la recevoir. Shaim, on vient d'évoquer votre père. Votre maman, métropolitaine, d'origine normande, qui, elle, a insisté pour que l'année de vos 14 ans, vous inscriviez à des cours de danse afin, on va dire, d'avoir une activité socialisante. Alors justement, à 14 ans, Shaim, vous en paraissiez 17, vous étiez ravissante. Prendre le train seul, c'était compliqué parce que vous faisiez sans cesse accoster. Vous redoutiez ça, mais tout de même, vous étiez flattée. Est-ce que c'est étonnant, finalement, de comprendre le pouvoir de la beauté alors que, justement, on est belle?
J'ai eu beaucoup de mal à me... à m'y faire à ça, à la féminité, au fait de plaire, au fait de l'assumer, enfin de plaire comme beaucoup de jeunes filles finalement, mais c'est vrai que je faisais plus âgée que mon âge, alors je plaisais à des hommes un peu plus vieux et en même temps c'était étrange parce que j'étais très garçon manqué, j'étais très timide, donc vraiment mon premier bisou je l'ai eu très très tard, le reste aussi, ça j'ai attendu vraiment longtemps et en étant jeune femme j'ai mis encore plus de temps à devenir femme, à assumer les talons, à assumer les chapeaux, les lunettes, etc. J'en étais absolument pas consciente quand j'étais plus jeune et j'adorais être la bonne copine. Mais en même temps, j'étais très forte pour friendzoner. J'étais très claire dès le début et j'étais très à l'aise dans ça, quoi. Et je sais que ma mère aimait aussi beaucoup, ça m'a marqué, mais aimait beaucoup que j'ai cette distance par rapport aux garçons pendant longtemps. Je crois que j'étais fière de passer à côté de ça, de passer à côté des garçons, de passer à côté de la télé que j'ai regardée très tard. J'avais l'impression que ça lui faisait plaisir, donc j'ai vraiment repoussé à chaque fois l'échéance assez tard.
Alors, votre papa, il travaillait dans l'informatique. Votre maman était, paraît-il, employée à la caisse d'allocation familiale.
Voilà.
Et je pense que vous devez, Chaïm, être l'une des rares adolescentes de trappe à avoir fait de l'équitation, parce que c'est considéré comme un sport plutôt bourgeois. Il paraît que c'est votre père qui vous a appris à monter à cheval. Racontez-nous.
Oui, alors à l'époque, je ne voyais plus mon papa, en fait. Et puis les moments où on s'est retrouvés à se voir à peu près chaque fin de semaine et week-end, on s'est vraiment retrouvés autour de l'équitation. Voilà, ça devait être une discipline à l'époque qui me plaisait. J'adorais les animaux en général, j'adorais les chevaux, ça me fascinait. Et en même temps, oui, une discipline qui demande d'avoir une certaine bourse. Et puis mon père à l'époque était étant papa célibataire, pouvait se permettre de nous payer des cours d'équitation. Et puis on s'est vraiment retrouvés autour de ça, autour de cette discipline. Et au-delà des cours, il y a tout l'avant, l'après, où on pense les chevaux, où il y a une espèce de complicité avec l'animal et puis avec mon père aussi. Mais ça m'a plu tout de suite. Ça me faisait peur aussi parce que c'est impressionnant, parce qu'il y avait des sauts d'obstacles, il y avait tout ça. J'ai passé mes galops également. Donc je suis vraiment tombée amoureuse de l'équitation et puis j'ai retrouvé mon père aussi et c'était fort.
Bon, je continue de dérouler le fil de votre histoire, Chaïm. Vous passez votre bac, vous l'avez, vous inscrivez en fac de langue et vous n'y mettez jamais les pieds. Pourquoi ?
Effectivement, j'ai passé mon bac littéraire. J'avais toutes mes copines qui partent à la fac pour faire langue étrangère appliquée. Moi, je savais déjà à ce moment-là que je ne voulais plus continuer les cours et commencer de la danse. Je voulais en faire mon métier. Finalement, je voulais aller prendre des cours sur Paris. Et puis, je me suis quand même inscrite à la fac parce que j'avais une réduction sur la carte imaginaire pour prendre le train et une bourse aussi.
Donc, ouais, ne nous dites pas que c'est l'unique raison pour laquelle vous êtes inscrite en fac.
C'est l'unique raison, si. Ouais. J'ai dû prendre un cours en amphi quand même parce que j'avais envie juste de voir un peu l'effet que ça faisait de prendre des cours avec plein de gens, etc. Et puis ça me fascinait de le voir à la télé. Donc j'ai dû faire un cours là-bas à l'amphi. Mais ensuite, effectivement, je n'y suis pas retournée. Je suis allée prendre des cours à Paris tout de suite. J'ai travaillé en même temps dans une boulangerie et dans d'autres boulots alimentaires pour pouvoir payer mes cours.
Et vos parents savaient que vous n'alliez pas en fac ?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui. Ah non, mais ça, en revanche, je n'ai jamais menti à ma mère. Enfin, pas sur des trucs aussi énormes parce qu'on avait une telle complicité de façon que je pouvais pas lui mentir et puis elle avait aussi confiance en moi et voilà, mais c'était un peu la débrouille à ce moment-là. Mais langue étrangère appliquée, ça m'avait pas forcément c'était stratégique.
Ça aurait pu servir pour la carrière qui vous attend à l'international, hein.
Oui,
bon,
oui.
Alors
bon,
je continue. Votre vocation, Chaïm, n'était pas donc du tout de devenir chanteuse mais danseuse. Alors j'aimerais savoir comment le destin s'y est pris finalement pour inverser la tendance. Qui vous a repéré et vous a fait enregistrer des maquettes qui sont arrivées sur le bureau de celui qui, toujours d'ailleurs depuis votre premier album, est votre producteur, Camaro.
J'ai toujours aimé la musique, mais imaginez-vous une jeune femme de 16-17 ans, même plus jeune, qui se dit « je veux devenir chanteuse ». J'habitais à Trappes, j'avais pas du tout de réseau parisien ou de gens qui étaient dans des maisons de disques, etc. Pour moi, c'était inenvisageable, inaccessible, comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui. En plus, les télécrochets n'existaient pas, etc. Donc pour moi, c'était juste... c'était même pas de l'utopie, mais plus que irréalisable finalement. Et puis la danse m'a emmenée à faire des rencontres. Et puis je rencontre des artistes qui faisaient de la musique également chez eux, qui s'étaient construits des petits studios. Et puis de là, on décide de s'amuser. J'apprends vraiment tout en studio avec mes potes à l'époque. Et puis on commence à faire ce qui s'appelle une maquette. Et c'est ce que je présente aux maisons de disques. Donc là, j'arrive, grâce à mes amis, à avoir des rendez-vous dans des maisons de disques, donc dans des indés, dans des plus importantes. Et puis, je finis par tomber sur un directeur artistique à Warner, qui laisse ma maquette sur un bout de bureau. Et Cyril, étant signé à l'époque chez Warner en tant que Camaro, en tant qu'artiste, tombe sur cette maquette. Et puis à l'époque, il voulait produire, il voulait s'entrer dans la production et
donc
se retirer un peu.
Donc elle ne lui était pas destinée, cette maquette.
Elle ne lui était pas destinée, non, non. J'ai eu énormément de chance, évidemment, que le travail aussi doit continuer l'aboutissement d'un chemin, mais la chance énormément.
Bon, alors, Chaim, est-ce que le temps s'écoule plus vite dans votre métier?
Je crois. Alors, je n'ai pas eu d'autre vie, donc ce serait difficile de comparer à celle que j'ai aujourd'hui. Mais effectivement, j'ai l'impression, en ayant commencé à 19-20 ans, que 12 ans après, je n'ai pas vu passer ces années. Ma vingtaine, je l'ai effleurée, je l'ai aperçue. Et en même temps, il y a des moments qui l'ont ponctuée de façon très intrinsèque, très profonde et très déterminante. Je crois que ce métier m'a fait évoluer plus vite, m'a fait m'épanouir aussi plus vite et mieux. D'une certaine façon, il y a une forme d'égoïsme aussi à vivre cette vie-là. J'aurais pas voulu en avoir une autre. Et j'ai réalisé mon rêve de petite fille. Voilà, je fais jamais la même chose tous les jours.
On retrouve tout de suite Chaim.
Le 4 novembre 2017, Isabelle Morizet retraçait le parcours de Tamara Marthe, plus connue sous son nom d'artiste Chaim. C'était à l'occasion de la sortie de son 6e album studio Héros. Et cet après-midi, eh bien, on redécouvre cet entretien jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Chaim, vous êtes depuis le début de la décennie la record woman de la pop française. Vous avez rempli plusieurs fois Bercy. Vous êtes, je le rappelle, la seule artiste française qui a récolté 500 000 de vues sur YouTube. Vous avez remporté, oh la gambette, le trophée si convoité de Danse avec les Stars. Et à ce jour, vous avez vendu plus de 2 millions d'albums. Mais quelle est la vie de Tamara Marthe, votre vrai nom donc, quand Chaim sort de scène? Elle vit comment, Tamara? Elle voit qui?
Elle est tellement simple, sa vie, si vous saviez. C'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup moins trépidant, mais tout aussi grisant parce que je suis très casanière et j'adore me retrouver chez moi, avec mes amis ou en famille, ou tout simplement autour d'un verre et d'un bon repas dans une brasserie dans laquelle j'ai l'habitude d'aller. C'est très terrien, en fait. J'ai besoin de ces moments-là, j'ai besoin de retrouver cette normalité pour pouvoir vivre encore mieux ces moments de scène et d'euphorie. C'est
Alors,
essentiel.
Chaim, c'est une diva extravertie qui, comme toutes les stars du R&B, ose sur scène toutes les extravagances, alors que Tamara, dans la vie, est, paraît-il, une fille très très discrète. Mais Tamara contrôle Chaim, malgré tout?
Bien sûr. Et heureusement, je pense que sinon c'est le début de la fin, mais je la contrôle complètement. Alors parfois, elle me dépasse dans l'image que les gens perçoivent, parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, et puis parfois, ça reste de la communication. Donc il y a des choses, comme lorsqu'on parle à quelqu'un, il y a des choses qu'on interprète aussi, et pas forcément à sa juste valeur, mais c'est aussi le jeu. C'est le jeu d'être un personnage public, c'est de surfer justement entre ça, entre surfer sur une ligne mince, surtout que moi j'adore marcher sur cette ligne. Et qu'on se méprenne aussi parfois sur ce qui je peux être, parce que j'aime qu'on ne me saisisse pas complètement. Ça me permet de me protéger, ça me permet de protéger Tamara aussi.
Surfer, marcher sur cette ligne, sans trébucher. Quand on rêve d'incarner une génération, on a des responsabilités face à son public.
On s'en rend compte après. Au début, on fait juste ce qu'on aime. On dit juste ce qu'on a envie de dire, parce que c'est soi, parce que c'est qui on est. Et puis après, on se rend compte qu'il y a un impact. Alors, on fait les choses différemment. On apprend aussi beaucoup. À 20 ans, je ne connaissais rien. Les réseaux sociaux sont arrivés après aussi. Je ne connaissais rien. Il y a quelque chose de très instinctif, en fait, dans cette approche des réseaux sociaux et des interviews, etc. Mais je crois surtout qu'il faut garder quand même une espèce de spontanéité, parce que quand tout devient contrôlé, quand tout devient mâché, pré-mâché et digéré, il y a plus d'amusement, en fait. Et je veux pas le vivre comme ça, surtout pas.
Alors, vous n'avez pas eu peur un jour de prendre la fuite, Chaim? Il y a 3 ans, après avoir été sollicité vraiment par tous les médias, avoir été omniprésente en télé, en radio et sur scène, vous avez eu besoin d'une rupture totale et vous avez eu besoin de partir, en fait, sans savoir quand vous alliez revenir. Effectivement, vous avez choisi de partir très très loin puisque vous avez fait un break de plusieurs mois en Afrique du Sud.
Ouais.
Pourquoi l'Afrique du Sud?
Ça devait être 4 jours au départ et effectivement, je suis restée quelques mois avec des retours en France très rapides.
Ah, vous êtes capable de ça?
Je suis partie du jour au lendemain, pratiquement, on va dire à 2 jours. J'ai pris mon ticket 2 jours avant, je suis repartie. Je devais rentrer 4 jours après parce que je devais garder mon petit frère de 5 ans à l'époque pendant 4 jours également. Et à la suite de cette garde, eh ben, je suis repartie en Afrique du Sud. J'avais un ami qui était là-bas, qui travaillait, un saisonnier, et qui m'a dit, Tam, faut absolument que tu viennes, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et il m'a envoyé plein de photos. Et là, j'ai vu une photo de Cape Point, donc à la croisée des deux océans, vraiment la pointe de l'Afrique. Et je me suis dit, mais c'est magnifique.
Alors, vous n'êtes pas resté à Cape Town, j'imagine que vous avez voyagé à travers l'Afrique du Sud.
Même pas, je suis vraiment restée à Cape Town. J'avais mes habitudes, je me suis sentie chez moi en fait tout de suite. Je vous dis, je suis repartie, j'avais envie d'acheter une maison, de faire un enfant là-bas, enfin de trouver d'abord le chéri, mais en tout cas, je m'imaginais avec un petit loulou de 3-4 ans.
Ah non, mais j'étais bouleversée, tout faire imploser.
Ah ouais. Autant j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais c'est la première fois que je me sentais chez moi. Et c'est vrai que ça a toujours été un trait de ma personnalité. Et Cyril Camaro me l'a dit un jour, il m'a dit en fait t'es une vraie kamikaze, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose chez moi, alors c'était peut-être délicat de sortir ce mot-là maintenant, mais il y avait vraiment quelque chose en moi qui existe encore toujours, c'est que je suis prête vraiment à tout abandonner et au contraire à tout aller chercher sur un coup de tête. Si je me sens plus heureuse, si je me sens plus être à ma place, je suis capable vraiment de changer de vie du jour au lendemain.
Vous auriez vraiment pu rester à
oui.
Cape Town.
Vraiment, honnêtement.
Nous, on vous aurait perdu, Chaïm.
Je crois que j'aurais peut-être certainement, au bout d'un an, deux ans, peut-être plus longtemps, eu besoin de revenir en France et refaire de la musique à nouveau, parce que forcément que ça m'aurait manqué. Et puis, lorsque je suis rentrée et que j'ai préparé mon album, c'est aussi pour ça que Solitaire existait et qu'il était si différent et qu'il s'est appelé Solitaire, parce que j'étais pas seule, parce que j'étais entourée, mais j'étais tellement moi, en fait. Chaïm n'existait pas là-bas, et quand je suis revenue, je me suis
vous
sentie un peu...
Vous étiez beaucoup plus Tamara que Chaïm.
Là-bas, absolument. Bah, personne ne me connaissait, ne me reconnaissait. J'existais.
Comment
quoi.
Réintègre une vie de star ultra calibrée justement quand on quitte ce pays de tous les sortilèges et qu'on se réveille à Paris avec son agenda de ministre?
Mais c'est plein de paradoxes évidemment, parce que c'est douloureux, le retour est douloureux, mais en même temps avant de retrouver les plateaux, la scène, etc., j'ai quand même une période d'album, donc de studio, un temps pour me retrouver, etc. Mais c'est aussi pourquoi cet album a existé, Solitaire, parce qu'il était ce que j'ai vécu un an en Afrique du Sud. Un peu plus torturé peut-être que les autres, moins solaire.
Chaïm, on vit comment en Afrique du Sud aujourd'hui quand on est métisse?
C'est difficile, hein, parce que moi je n'ai vu que les bons côtés finalement. Je me suis pas sentie regardée différemment, parce que ça se voyait que je venais pas d'ici et que j'étais complètement en visite, touriste. Bah, j'ai toujours gardé ce statut de touriste quand même malgré tout là-bas. J'ai aucun mauvais souvenir de ce côté-là, et j'en ai jamais eu d'ailleurs, même en France. J'ai toujours véhiculé mon métissage comme une richesse, comme une différence, comme... un petit plus finalement qui me faisait avoir une ouverture d'esprit déjà très jeune, assez large, une compréhension des autres, une curiosité aussi, et ça a toujours été positif.
Alors vous êtes donc rentrée d'Afrique du Sud avec l'envie plus assumée encore d'être totalement vous-même. Il paraît que vous êtes décisionnaire absolument à toutes les étapes de votre travail, Chaïm. Donc Camaro est votre producteur. Mais finalement, c'est toujours vous qui avez le dernier mot ?
Effectivement, il m'est difficile en tout cas de faire des choses que je ne ressens pas. J'aime débattre, j'aime parler des choses. On n'a pas toujours été d'accord avec Cyril, comme cette participation à Danse avec les Stars, par exemple, où il m'a déconseillé à la base de le faire. Et moi, je n'avais tellement envie. Je ne sais pas, peut-être parce que l'émission commençait, parce qu'il y avait une mise à nu aussi, parce que c'est la première fois qu'on allait me voir vraiment naturelle, à répéter pendant des heures en occultant à un moment donné les caméras, parce que c'était que de la danse, donc on allait me voir dans un domaine qui me ressemblait pas, en tout cas de base. Et finalement, j'avais tellement envie de réaliser une partie du rêve que je n'avais pas pu réaliser plus jeune, c'est-à-dire de devenir danseuse et de pouvoir passer des émotions juste par la danse, juste par le corps. Et j'avais une frustration de ce côté-là, et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à le faire. Et puis au final,
et ça a été le tremplin plus efficace, incroyable.
C'était fou.
Votre histoire.
Et puis au-delà du tremplin et de la carrière et des gens que j'ai pu toucher, vraiment l'expérience personnelle que j'ai eue a été fantastique.
C'est en compagnie de Tamara Chaïm, ou Chaïm Tamara, qu'on se balade cet après-midi, et c'est vraiment bien. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Reviens dans un petit instant. On va retrouver Isabelle Morizet et son invité Chaïm, artiste multidisciplinaire, à l'occasion d'un entretien qui s'est déroulé le 4 novembre 2017 sur Europe 1. Confidence en toute bienveillance, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet et son invité Chaïm. C'était le 4 novembre 2017.
Chaïm, dessiné à l'encre dans votre chair, il y a la colombe de la paix de Picasso. Plus ambitieux qu'un carpe diem, est incrusté, paraît-il, sur votre bras. Je ne le vois pas là parce que la manche le recouvre un peu. Il y a le carpe aeternitatem qui signifie donc « profite de l'éternité ». Il paraît que vous avez fait graver sur votre nuque « je te aime » avec un H barré. coiffée de la couronne du peintre Basquiat. Puis j'imagine que d'autres tatouages encore sont venus compléter cette oui. mosaïque qui est, j'ai envie de dire, presque codée. En tout, vous avez combien des tatouages? 6, 7, 8, 10?
J'ai arrêté de compter après 20, je dois en avoir une trentaine.
C'est pas possible. Mais alors attendez, on ne les voit pas.
Mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il va falloir enlever la clim déjà dans le studio. Il y en a beaucoup. Vous venez de citer les premiers, en fait, étrangement. Effectivement, la colombe de la paix, c'était à la fin d'un poème de Victor Hugo sur un tableau que ma mère avait, où il y avait cette colombe dessinée à la fin de ce poème, ce cadre qui nous a suivis dans tous nos déménagements. Alors plus jeune, le poème je le comprenais pas forcément, le dessin non plus, et finalement je voyais ce cadre à chaque fois arriver, atterrir sur chaque mur de chaque appartement, et vu qu'on a vraiment beaucoup déménagé, c'était mon point de repère, et ce visage mi-oiseau, mi-humain qui m'avait intrigué, et puis plus tard j'ai su ce que ça représentait, ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est vraiment un tatou qui m'a... C'était pour ma maman, en quelque sorte.
Scheim, tatouer son corps, ça implique un jeu entre ce que l'on veut montrer et puis ce que l'on veut cacher. Et surtout, ça implique d'imaginer ce qu'on assumera encore dans 20 ou 30 ans. Parce que la chair n'est pas une feuille sur laquelle on peut gommer un dessin. Ce côté définitif, alors que tout dans la vie est en mouvement, ce côté définitif ne vous effraie pas?
Ils sont en mouvement, mes tatouages. Ils s'effacent, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne les reprends pas. Ils s'effacent, ils se mélangent avec d'autres que j'ajoute parfois autour, à côté. Et puis ils ont surtout une signification et une époque, une moi aussi. J'ai commencé à 22 ans et chaque tatouage me rappelle...
Et comme un chapitre de votre histoire.
C'est un livre en fait. J'ai l'habitude de dire que c'est mon carnet intime. J'ai toujours eu peur qu'on tombe sur ce journal intime avec ce cadenas qui ne tient jamais, que les parents arrivent toujours à défaire. Et ben voilà, moi il est sur
vous
mon corps.
Sur vous.
Absolument. Et on ne peut pas me le voler.
Mais Chaim, expliquez-nous. On se réveille un matin en se disant que, par exemple, là, au creux du bras ou sur la cheville, il y a un signe, un symbole, une phrase ou un dessin qui doit absolument être diffusé à l'encre dans la chair pour finalement mieux raconter ce qu'on est. Comment naît l'envie?
C'est un besoin presque, hein. Vous venez de le décrire assez précisément, c'est-à-dire que je vais lire un livre et il y a une phrase, une notion, un voyage qui va m'amener à avoir une idée. Alors c'est parfois esthétique, parfois c'est une phrase, et puis l'emplacement sur le corps vient assez naturellement, et puis on le fait pas dès le lendemain forcément, mais ça peut prendre des semaines, des années même, et on a envie de le faire tout simplement. Je sais que lorsque je m'attarde sur les tatouages de certaines personnes que je peux croiser, ça en dit beaucoup sur la personnalité, sur le choix des dessins, sur les choix des phrases, quand on commence à en parler ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas forcément envie de donner la signification de tous ces tatouages. Je trouve que ça décrit beaucoup la personnalité des gens. On parlait du voyage encore une fois au Népal. J'ai dû m'arrêter à Katmandou, à la capitale, 2 heures avant de prendre mon avion pour inscrire quelque chose sur ma peau, et j'avais envie de le faire là-bas, j'avais pas envie de le faire de retour à Paris. C'est des moments comme ça où là, pour le coup, j'ai pas trop réfléchi, mais c'est plus qu'une envie, c'est un besoin, il me le faut.
Mais alors, question cruciale, Chaim. Les tatouages, on les fait pour soi ou on les fait pour les autres?
Les deux. On les fait pour soi d'abord, surtout ceux qui sont cachés. Et puis il y a une forme d'esthétisme aussi, où qu'on a envie de partager, entre guillemets. Pas forcément pour attirer le regard ou pour se faire poser des questions, mais parce que je trouve ça joli aussi, je trouve ça esthétique chez quelqu'un. Tout dépend des tatouages évidemment, mais je trouve qu'il y a un côté intrigant quand ils sont faits avec un sens, quand ils sont faits, quand on les pense aussi. Il y a un sens à tout ça, c'est rarement gratuit.
Il paraît que la difficulté quand on a commencé, c'est de ne pas en rajouter. Vous avez en tête le prochain?
Ah bien sûr, mais j'en ai 10 déjà en tête. La difficulté de ne pas tout le temps s'écouter et de ne pas tout le temps les réaliser, mais d'attendre. Voilà, c'est...
Bon, Chaim, il y a une chose que vous n'avez pas encore expérimentée et dont vous rêvez, paraît-il, c'est le cinéma. Alors, Louane, par exemple, mène parallèlement une carrière de chanteuse et d'actrice. Est-ce que ça, c'est un équilibre qui vous plairait?
Je crois que de toujours commencer quelque chose de nouveau, de toujours me risquer dans une aventure, c'est un équilibre qui me plaît. Aujourd'hui, le cinéma, c'est quelque chose qui me donne vraiment envie parce que j'en ai fait, enfin j'ai pas fait de la comédie mais j'ai fait du théâtre, donc en quelque sorte on est dans ce rôle de composition à devoir jouer un personnage. Je crois que c'est ce qui me fait fantasmer surtout, c'est de pouvoir exister différemment en allant toujours chercher des choses qui sont en moi, mais de pouvoir les assumer à travers un personnage. Et je crois que c'est surtout ça qui m'excite dans le cinéma ou dans le théâtre.
Alors par exemple, Valériane, la nouvelle superproduction de Luc Besson, oui, a donné sa chance à Cara Delevingne, top modèle, qui n'avait jamais joué la comédie, qui s'en tire avec des critiques assez enthousiastes. Mais d'après ce que vous venez de nous dire, c'est pas ce cinéma-là de blockbuster qui vous plairait, c'est plutôt le fait de vous aventurer dans un cinéma d'auteur.
Ah oui, bah vous me lancez dans, c'est ce que j'allais dire, ouais, dans un film d'auteur avec un jeune réal presque pratiquement pas connu, avec une distribution de comédiens talentueux, mais sans être connu non plus. Oui, c'est quelque chose qui me donnerait énormément envie. Qu'on me fasse confiance. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, quelqu'un qui trouve quelque chose en moi, qui l'inspire, et en me trouvant inspirante, je serai inspirée. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, finalement.
La formule est jolie. L'appel est lancé sur l'antenne voilà. d'Europe 1. On retrouve tout de suite Chaim.
On les retrouve donc tout de suite pour la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, entretien qui remonte au 4 novembre 2017.
Chaim, je me doutais que vous étiez une femme de tempérament, une guerrière, une aventurière au sens noble. Mais alors, quand j'ai appris que vous avez relevé le défi de l'émission de survie la plus folle de la télévision, celle de Mike Horn, baptisée « À l'état sauvage », dans laquelle il embarque des personnalités dans une immersion dans le monde sauvage que seul un commando de soldats super entraînés pourrait affronter, là, je me suis dit que Chaim était notre Lara Croft française.
Nous avons été, il m'a emmené dans les chaînes de l'Himalaya. Donc on est passé par le Népal, évidemment. Et puis après plusieurs stops afin de m'acclimater l'altitude, j'ai atterri dans ces montagnes et j'ai rencontré ce grand monsieur. Je ne crois pas encore avoir trouvé les mots pour décrire ce que j'ai vécu parce que c'est l'aventure d'une vie. Je l'appelle même pas, quand j'en parle, il n'y a pas d'aléta sauvage, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas tout ça, c'est l'aventure d'une vie. Ça a été un cadeau pour moi de le faire, une chance énorme de pouvoir vivre ça avec lui, avec Mike, parce qu'elle n'aurait pas été la même avec quelqu'un d'autre. J'ai pas encore mis des mots sur ce que j'ai ressenti, sur mes mots aussi, M-A-U-X, parce que on arrive avec des mots et on repart avec d'autres mots, mais sans jamais trouver les mots.
Alors, lorsque on grimpe dans les montagnes népalaises jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude, on embarque quoi avec soi? Qu'est-ce qu'on a dans son sac à dos?
Alors moi, j'ai rien pris, quoi. Je veux dire, j'ai préparé mon sac de trek. Donc, vu que les températures en plus allaient de, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais de 11 le soir, dès que le soleil se couche, à 25 la journée avec le soleil, etc. J'avais tout. J'avais des manteaux, des débardeurs. Enfin, je suis pas venue allégée. Et un sac de chocolat, un petit sac de chocolat. Je citerai pas la marque, mais vu que je savais que j'allais rien manger là-bas, parce qu'à part des cailloux, il y a pas grand-chose, il m'a accordé de garder un petit sac de, un minuscule. Le sac de chocolat.
Bon, et pour dormir, vous improvisiez quel genre de bivouac?
Il n'y a pas de bivouac. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un duvet quand même, un sac de couchage et puis une sorte de matelas qui n'en est pas vraiment un, où on sent vite son coccyx et ses os épouser les galets, la roche, etc.
Wow.
mais ouais, non, ça a été douloureux. Et puis vu que l'altitude fait qu'on dort très mal, moi, je sais pas combien de temps j'ai dormi en 4 jours, mais peut-être 4 heures, quoi. Ça a été... La fatigue a rendu les choses difficiles, forcément le manque de nourriture aussi. L'effort qui devient très dur quand on grimpe très haut, les quelques pas que je faisais au bout de 5 mètres, j'étais déjà très fortement essoufflé, en sachant qu'il n'y avait pas non plus que du plat, mais il y avait de la pente, il y avait un médecin qui nous suivait.
L'équipe qui vous filmait était composée de combien de caméramans?
Ils sont pas beaucoup, je crois qu'on est peut-être 6 ou 7, mais on ne les sent pas. Voilà, ils nous parlent pas. On n'est jamais en communication avec eux. Ils sont très loin de nous aussi.
Vous n'êtes jamais en communication avec
non,
eux.
Non, ils ont en tout cas pour règle de ne pas me parler. Voilà. Donc, et ça me permet de rester dans ma bulle avec Mike et de créer cette complicité qui s'est faite assez vite, en fait. J'ai pas l'habitude de me retrouver avec des inconnus comme ça et de me sentir à l'aise tout de suite, mais nos âmes se sont reconnues, je crois.
J'aimerais savoir tout de même, au cours de ce périple fou, Chaim, quel événement a fait monter à vos yeux des larmes d'épuisement, d'émotion ou de joie? S'il y a une image à exhumer tellement puissante.
Il y en a beaucoup. Même en parlant, j'ai l'émotion qui remonte. Je pense que le deuxième jour a été difficile. Le deuxième jour était difficile parce qu'en fait, on s'imagine pas à quel point c'est dur. On s'imagine pas. Je suis assez pudique, je pleure pas facilement et j'ai souvent l'habitude de me contrôler. Et j'avais envie, en partant là-bas, de me retrouver dans cette zone de non-confort et de voir comment j'allais réagir, de voir effectivement si j'allais être capable de péter un câble complet ou si au contraire j'allais être capable d'abandonner et de dire bon ok là j'arrête, si j'allais m'effondrer, si j'allais réussir à être assez forte et à continuer. Voilà, j'avais plein de questions parce que je m'étais jamais retrouvée dans cette situation-là et puis au deuxième jour je me retrouve déjà démunie de tout, démunie de force mentale, de force physique et je m'arrête et je pleure en fait, mais je pleure vraiment, je pleure. Et là, je me dis, ok, il faut que tu continues, en fait. Il reste encore 3 jours de tournage, je veux pas décevoir Mike. J'ai pas envie d'être un poids pour lui. J'avais très envie qu'il vive une bonne aventure aussi, au-delà de la mienne. J'avais envie que lui, ça soit pas difficile pour lui. Et j'avais envie qu'il apprécie. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'ego aussi fait que j'ai pas envie d'abandonner tout de suite. Mmh. Et puis, je repars, quoi. Je fais une pause, je lâche tout et je repars.
Est-ce que vous êtes passé par Katmandou ? Katmandou où chaque jour a lieu le rituel de crémation des corps sur les berges du fleuve Bagmati.
Alors on n'a pas vu tout ça, mais j'y suis passée vraiment une nuit à l'arrivée de ce long voyage. On a dormi une nuit, le lendemain on repartait déjà pour grimper en altitude.
Alors après cette traversée, sac à dos, des montagnes népalaises, Chaim, j'aimerais savoir de quoi vous avez rêvé la première nuit où vous êtes retrouvée dans le lit de votre appartement parisien, soudain, dans des draps, sur un matelas moelleux.
Mais déjà, avant de retrouver mon appart, j'ai retrouvé c'est pas un hôtel, hein, mais c'est une chambre d'hôte, on va dire, qui était dans le village duquel je suis partie.
Et ça vous semblait d'un luxe extrême.
Ça me semblait, mais alors que quand je suis arrivée, il faisait froid, le matelas était très fin, il y avait pas d'eau chaude, enfin voilà, c'était assez rudimentaire. Et puis je me suis retrouvée là la première nuit, mais je ne vous explique même pas le bonheur que ça a été, mais vraiment. Et puis là, quand je suis revenue chez moi, il y a eu quand même un temps d'adaptation où je suis rentrée, j'ai regardé les murs, j'ai regarder le confort, la nourriture qu'il y avait à foison, où je me suis dit mais j'ai faim, je peux manger quand je veux, cette eau chaude, cette douche, ça a été formidable, de se remaquiller aussi, parce que ça aussi ça a été un peu au début un peu difficile à accepter, mais j'étais pas maquillée du tout, c'est la première fois qu'on va me voir à la télé sans mascara, sans rien, rien de chez rien, j'ai toujours un minimum de quelque chose sur moi, je me suis pas cachée, il y avait rien à faire.
Vous rêvez de quoi, Chaim, aujourd'hui, vous que les dieux ont tellement envie de gâter?
Eh ben, je rêve surtout de ne jamais m'arrêter. C'est finalement, on sent qu'il est là, le réel danger. Autant si je le décide et si j'en ai l'envie ou le besoin, je me sens capable de changer de vie. Mais autant, tant que je suis pas prête avec ça, c'est que je suis heureuse dans cette vie et qu'elle m'épanouit en fait. Et je crois qu'elle me guérit de beaucoup de choses. Et ce serait douloureux aujourd'hui pour moi de continuer de la vivre et de ne pas pouvoir rencontrer mon public à chaque sortie d'album, à chaque nouvelle aventure. Pour moi, c'est ma récompense, c'est mon cadeau et c'est ce qui me permet encore de perdurer.
Vous savez quoi ? Vous avez bien fait de graver dans la chair de votre bras « Carpe aeternitatem ». Profitez de l'éternité, la route sera belle et longue.
J'espère, merci beaucoup.
Merci Chaim.
Merci.
C'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie », des confidences qui remontent au 4 novembre 2017. Demain, autre conversation à découvrir ou redécouvrir en compagnie de l'actrice Juliette Binoche. Là aussi, on va remonter le temps puisque cette conversation avec Isabelle Morizet remonte au 25 mars 2017 quand elle la recevait à l'occasion de la sortie du film « Telle mère, telle fille ». À suivre les infos et puis nous retrouverons Laurence Boccolini pour la rediffusion de son jeu quotidien « Êtes-vous prêt à jouer le jeu ?» Jusqu'à 18h, on jouera d'abord avec Frédéric Mitterrand, puis avec Raphaël Mesrahi.